discussion du soir. Les discussions du soir, Lily Anvar.
Bonsoir et merci d'être à l'écoute de cette nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer tous les mercredis soirs de 22h15 à 23h. Je recevrai chaque semaine un invité pour parler de spiritualité au pluriel, de parcours de vie susceptibles d'éclairer notre quête de sens. Nous explorerons ensemble diverses voies qui mènent à la connaissance de soi et du monde. Nous évoquerons les mille et une façons d'entamer un travail intérieur afin de se transformer corps et âme, de changer les choses en soi et autour de soi, et pourquoi pas de réenchanter le monde en épanouissant sa vie intérieure. Ce soir, pour cette première émission, nous avons la joie d'être en compagnie de Christiane Rancé. Christiane Rancé, vous êtes grand reporter et donc grande voyageuse devant l'éternel. Vous avez collaboré au magazine Géo et Le Figaro Magazine, mais vous êtes aussi une exploratrice de la foi, de la vie et de l'écriture. Romancière et essayiste, vous avez publié de nombreux ouvrages, biographies de Jésus, Simone Veil, Tolstoï, le pape François, Sainte Thérèse d'Avila. Vous avez aussi publié au Seuil un très bel essai sur la prière qui a obtenu le Grand Prix des écrivains croyants et le prix Panorama La Procure, dont le titre est pour le moins évocateur « Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase ». Aujourd'hui, vous nous revenez avec « En pleine lumière » qui va paraître dans quelques jours chez Albin Michel. Il s'agit d'un carnet, en fait, tenu de mois en mois, où vous évoquez vos réflexions en telle ou telle occasion, vos admirations, vos voyages, vos coups de cœur. Vous nous parlez de votre chemin de vie, des épreuves que vous avez traversées, de votre foi chevillée à l'âme et au corps, de votre regard sur le monde enchanté et enchanteur, mais de vos doutes aussi, et de vos deuils dont vous êtes sorti grandi. C'est un livre solaire, traversé ça et là par de violents orages, pour paraphraser le poète. Vous nous y invitez à une célébration de la vie malgré tout, contre tout, la vie infiniment suave et source inépuisable de joie. J'ai envie de vous demander tout d'abord, Christiane Rancé, quand cela a-t-il commencé pour vous, cette façon d'interroger le monde et de l'habiter spirituellement ?
Dès l'enfance, je crois qu'on est avec une porosité à la beauté, au monde. Quand on a la chance, effectivement, d'y être invité, j'ai eu cette chance extraordinaire de naître dans une famille aimante avec des exemples d'amour très très forts. J'ai des grands-parents qui se sont aimés jusqu'au bout, des parents qui s'aiment jusqu'au bout. Ma mère m'a encore dit dernièrement, très étonnée qu'on puisse divorcer, mais moi je ne comprends pas qu'on se quitte. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas assez de sa vie pour le lui dire. Et j'ai trouvé quand même que c'était quelque chose de splendide. Donc j'ai eu cette éducation, mais dans l'acte qui ne m'était pas répété tous les matins, de l'amour déjà. J'ai eu ensuite la chance de traverser beaucoup de paysages. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite. Mes parents ont beaucoup déménagé. J'ai vécu au Maroc. J'ai passé des moments de mon enfance en Allemagne, à Donaueschingen. J'ai vécu en Normandie. J'ai passé du temps à Bordeaux, dans le sud-ouest. Donc il m'est resté de cette pluralité de paysages un questionnement naturel sur les différences de couleurs, sur les différences de climat. J'ai eu aussi la grande chance de vivre dans la nature et d'être élevée dans la nature. Et je crois que c'est la plus belle éducation qui soit. C'est cette ouverture de l'âme, non seulement par l'amour et avec l'amour, mais à l'amour du monde pour toutes ces créatures. Le printemps, les saisons, les fleurs, voilà.
Oui, ça c'est très présent, effectivement. Vous décrivez la nature, les saisons, justement, puisque ces carnets sont écrits mois après mois, donc chaque saison a ses spécificités. Et chaque saison vous apporte d'ailleurs sa moisson de joie. Vous êtes très connecté à la nature. Pour vous, c'est absolument essentiel, même à Paris, en fait, de vivre en communion avec la nature. Mais comment faites-vous quand vous êtes en ville, Christiane Rancé ?
Il y a des jardins. Et il y a des manifestations de la nature absolument partout. Je dirais presque qu'on pourrait presque avoir chacun son petit pot de fleurs sur la fenêtre, tout simplement. Mais il y a très beaux jardins à Paris avec un travail magnifique fait par les jardiniers. Il y a des jardins autour de Paris. Et je crois que c'est toujours un moment et une possibilité merveilleuse qui nous est offerte de s'offrir des moments, des parenthèses, d'exotisme total. L'exotisme total à Paris aujourd'hui, c'est l'église. et le jardin. L'église, parce que nous avons des moments de prière, de recueillement possible. Et le jardin, parce que le jardin vous remet, comme l'église, dans un rapport avec l'essentiel, avec le moment qu'il fait, le moment qu'il est, c'est-à-dire quelle saison, et quelle saison, cette saison à laquelle nous assistons, quelle saison correspond à celle aussi de notre âme, celle que nous traversons à ce moment-là.
Oui, vous êtes d'accord avec Victor Hugo qui pense que finalement le vrai livre, le livre dans lequel il faut lire pour connaître Dieu, c'est le plus que la Bible qu'il lisait pourtant, c'est la nature justement.
Oui, la gloire de Dieu, c'est le monde, c'est la création, c'est cette splendeur qui se déploie tous les jours sous nos yeux et qu'hélas nous ne savons plus regarder et que nous ne savons plus voir. Moi je regrette beaucoup ces enfants qui sont élevés en ville, non qu'il y ait quelque chose à dire de spécial sur la ville, mais parce qu'effectivement on est privé de ce contact à son essence propre et je dirais presque aussi de ce contact avec sa propre peur. Il n'y a rien de plus terrifiant que de se retrouver seul dans un immense espace quand il est tout d'un coup une forêt, quand il a encore cette capacité de sauvagerie qui nous réapprend tout le travail qu'on peut faire effectivement pour se domestiquer et pour domestiquer, c'est-à-dire rendre vivable la nature. Et là, il y a effectivement une leçon de choses, tout simplement, ce qu'on appelait autrefois les leçons de choses, qu'il convient de lire, d'écouter et de se réapproprier.
Mais alors, c'est une question aussi de regard, et c'est vrai que c'est presque un fil rouge dans votre livre que cette question du rapport à la nature. Mais je crois que pour vous, il y a aussi une manière de regarder. Il faut travailler son regard pour pouvoir précisément, comme vous le disiez, et ça me faisait penser à ce que est-il Soum dit dans La vie ou bouleversée sur le petit cyclamen qui pousse derrière sa fenêtre et qui d'un coup devient rose de la couleur de son espoir, même si son espoir sera déçu, bien sûr. Néanmoins, donc, vous invitez en fait à cela. Est-ce que vous avez travaillé votre regard vous-même ou est-ce que, vous avez dit ça vous a été donné naturellement, mais est-ce que vous pensez que ça peut se travailler ?
J'ai toujours travaillé mon regard. J'ai toujours travaillé, je dirais, plus que mon regard, ma mémoire. Je sais que c'est une chose qui m'étonne toujours quand je pose la question, mais quand j'étais toute petite, je m'obligeais à regarder les choses et à les apprendre par cœur. J'ai toujours eu cette conscience de la fugacité des instants. Et j'ai toujours cherché à garder en moi ce qui m'émouvait, même ce à quoi j'assistais. Et j'ai trouver un écho dans cette application et dans cette attention extrême dans ce que dit Simone Weil, la philosophe, quand je l'ai rencontrée, jusqu'à écrire donc un essai sur sa vie, qui est effectivement cet exercice d'attention extrême qui permet effectivement de s'ouvrir et de laisser le monde s'engouffrer en nous. Le monde s'engouffrer en nous, c'est-à-dire dans sa vérité, qui a besoin de chaque détail. La vérité a besoin de tous les détails, de chaque détail, et même la vérité jusqu'à la vérité d'un paysage. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, à laquelle je me suis exercée depuis que je suis toute petite.
Et peut-être une chose à laquelle il est très essentiel de s'exercer, dans le contexte actuel, qui est celui, par exemple, de la mode écologiste, il me semble que si on ne regarde pas le monde comme ça, on ne peut pas entrer dans une démarche écologique réelle. Qu'en pensez-vous, Christiane Ancet ?
Oui, sans doute. Je pense que d'aimer la nature est une démarche écologique. Il n'y a pas de démarche écologique. On est écologique, de notre essence nous rend écologique. Effectivement, c'est cet oubli qui nous rend si triste aujourd'hui, et j'en suis absolument persuadée. C'est se déconnecter de la nature, c'est se déconnecter effectivement des questions essentielles qui sont la vie, la mort, le passage des saisons, ce qu'elles nous apprennent, ce qui est effectivement cette question fondamentale qui est pourquoi l'oiseau n'a besoin que du ciel pour voler, le poisson de l'eau pour nager, Et moi, je ne peux pas m'en sortir toute seule sur cette terre. Comment faire pour vivre aussi, moi qui suis l'animal le moins favorisé par la nature, pour vivre toute seule une fois que je suis mise au monde? Je ne peux pas vivre toute seule sur cette terre. J'ai besoin des autres, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de l'amour des autres et j'ai besoin d'une nourriture. Et j'ai besoin effectivement de m'éduquer. Et c'est dans cette nature même que je vais trouver les ressources pour le faire, pour apprivoiser tout ce qui va me constituer. Mon désir de vie, ma peur de la mort, dont j'ai une notion, mon besoin d'amour, sans quoi je ne peux pas m'élever. Et je dirais, tout ce mouvement qui va m'amener à me totaliser, c'est-à-dire à devenir ce que je sens que je peux devenir et ce que mon éducation va m'inciter à être un jour.
Oui, et en même temps, cette nature ou ce monde qui pour vous est le signe de la grandeur divine et aussi de son amour en tant que créateur, ce monde est aussi habité, et vous le savez mieux que beaucoup de gens, du mal, de la laideur, de la terreur et, comme vous l'avez dit vous-même, de la mort. Alors comment transformer, comme vous l'avez fait, apparemment, ou comme vous essayez de le faire chaque jour, puisque c'est un travail qui n'est jamais fini, comment transformer ces paysages de ténèbres, qu'il nous est quand même donné, dans lesquels il nous est donné de vivre, en source de joie et de lumière?
Les ténèbres, ce sont toujours des ténèbres intérieures. Même la nuit, il y a des étoiles. Le ciel est magnifique la nuit, il s'agit de le contempler. Les ténèbres viennent de nous. Ensuite, effectivement, la question est de savoir comment les dépasser, comment essayer, tenter dans sa vie de ne pas les propager. Ça, c'est notre première réponse à cette question pourquoi y a-t-il ce monde autour de nous et que fais-je dans ce monde ? Eh bien, je suis là et la seule liberté qui m'est donnée, le seul pouvoir qui me soit donné, c'est effectivement de faire le bien ou de faire le mal. Donc ça, c'est un choix, c'est ma liberté première, c'est même le seul pouvoir que j'ai, c'est celui-là. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Peut-être Dieu n'existe pas, n'existe-t-il pas, mais en tout cas le mal existe. Et donc il faut toujours trouver un pendant à cette existence et à ce qui est effectivement un profond mystère. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ceux qui créons ce mal, cette laideur, cette destruction? Ça, c'est une réflexion qui doit être effectivement personnelle et dans laquelle nous devons engager notre vie tout entière. Moi, je suis née avec cette chance inouïe d'être effectivement dans une famille aimante qui m'a profondément aimée. Je suis née sans maladie, je suis née, ce qu'on pourrait dire, être quelqu'un de très privilégié. Et puis j'ai connu des épreuves comme tout le monde et qui effectivement m'ont foudroyée parce que je ne m'y attendais pas. La première réflexion que je me suis faite, ça a été un sentiment d'injustice. Comment se pouvait-il que des êtres que j'ai profondément aimés, qui étaient des êtres qui m'étaient si à moi, comme ma sœur, puissent être touchés par une maladie alors que c'était quelqu'un qu'on pouvait estimer être effectivement tout à fait au-delà, par sa bonté, par sa gentillesse, par son rire et par sa beauté. Et j'ai éprouvé ce sentiment d'injustice, jusqu'au moment où j'ai renversé la réflexion en me disant « mais au fond, je n'ai pas trouvé injuste de naître dans cette famille, dans cet amour, en étant en bonne santé, sans être atteinte d'imperfection physique qui me rende difficile d'accès aux autres ». Et là, j'ai pas trouvé que c'était injuste par rapport aux gens qui, eux, naissaient en Afrique, dans des conditions atroces, naissaient orphelins, vous connaissez des maladies épouvantables, tout effectivement ces injustices que nous estimons être des injustices. Mais après tout, mon privilège devait être aussi considéré comme une injustice au regard des autres. Donc, à mon tour, j'ai eu à faire l'épreuve de la vie. Et l'épreuve de la vie, c'est effectivement l'épreuve de la vie, c'est, à mon sens, apprendre à connaître la joie. Alors la joie, évidemment, on en parle beaucoup parce qu'on pense que c'est une espèce de béatitude, de chose simple. Il ne faut pas confondre, je crois, la joie et le bonheur. Ça n'est pas du tout la même chose. La joie, saint François d'Assise est sans doute celui qui en a donné la meilleure définition. Il rentrait à la portion culte, donc cette toute petite chapelle, pour retrouver ses compagnons avec frère Léon. Il neigeait, il faisait terriblement froid. Il pensait qu'il n'y aurait personne pour les attendre. Il se sentait incompris. Et frère Léon lui disait, mais écoute, tu me parles toujours de la joie parfaite. Qu'est-ce que c'est que cette joie parfaite? Et François d'Assise lui a répondu, eh bien, la joie parfaite, c'est arriver à se vaincre soi-même. Mmh. Et je crois effectivement que il faut faire l'apprentissage de la joie qui est d'apprendre la vérité de la vie et la vérité du monde, c'est-à-dire regarder cette vie en face avec vérité, comme le disait encore Simone Veil. Il ne peut pas y avoir de vérité sans un consentement à la mort et au fait que la mort arrivera un jour, qu'elle nous touche, nous ne nous en rendrons certainement pas compte, mais en tout cas qu'elle peut toucher des êtres qui constituent notre équilibre intérieur et personnel, tous ces êtres que nous aimons, ces êtres que nous ne connaissons pas non plus, dont nous apprenons la mort avec les attentats ou la mort dans des accidents ou des cataclysmes et qui nous touchent parce qu'effectivement, c'est toujours un scandale, la mort d'un être sur cette terre, la mort qui n'est pas accomplie, on va dire, quand une existence n'a pas accompli son parcours. Mais il faut regarder ça en face et il faut apprendre à le dépasser. Et dépasser, c'est vaincre soi-même. Les réactions premières qu'on peut avoir, ces réactions premières, ce sont la peur, la colère, je dirais même la haine. On peut se mettre à haïr le monde quand on perd quelqu'un qu'on aime. Ça m'est arrivé.
Oui, alors, justement, ça vous est arrivé, mais peut-être vous pouvez nous expliquer. Ça vous est arrivé, en fait, peut-être plus encore, mais en tout cas, dans votre livre, vous parlez de deux morts, en fait, d'ailleurs, qui se trouvent être au début de votre livre et puis à la fin. Donc, la première, c'est la mort de votre sœur, et la deuxième, c'est la mort de votre petite-fille. Donc, on a l'impression que votre... ce dont vous venez de nous parler, donc cette aspiration à la joie, elle a presque été indissociablement liée à l'expérience du deuil, et que ce sont ces deux deuils-là qui vous ont entraîné dans cette... entraîné, c'est peut-être pas le mot juste, mais enfin, qui vous ont invité à vous transformer, à transformer votre regard sur le monde.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé, j'ai mis du temps à parler de ces deux morts, parce que elles m'ont conduite dans un premier temps à écrire effectivement une vie de Jésus, à retrouver et à communiquer ce qui, dans la vie du Christ, dans le christianisme, mais aussi dans des exemples de personnages comme Léon Tolstoï ou la philosophe Simone Veil, ce qui les a amenés à dépasser effectivement des contradictions internes, à trouver une lumière et à trouver un chemin. Donc j'ai commencé par parler d'autres personnes. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je ne pouvais pas continuer à parler comme dans mon essai sur la prière, d'une façon détachée, d'une façon désincarnée, et qu'il me fallait dire comment, qu'est-ce qui me donnait le droit de donner, on va dire, pas des leçons, mais de parler de joie à d'autres personnes. Et donc il y a un moment, effectivement, à ce moment, ça a été ce livre, où il m'a fallu non pas me justifier, mais où j'ai eu le besoin de me légitimer et de communiquer une expérience. Parce que très souvent, les gens vous disent « Ah, mais vous parlez de la joie, vous parlez de la foi, vous parlez du Christ, mais comment peut-on avoir encore la foi? Comment peut-on croire en Dieu quand des enfants meurent ?» Oui. J'ai fait cette expérience, c'est une expérience atroce, dont on ne sort pas, qui ne vous quitte pas. Il n'y a pas d'apaisement dans le deuil, dans le sentiment de la souffrance, jamais. Il y a des moments de repos, mais la douleur revient toujours. Et il m'a fallu apprendre, effectivement, à communiquer, d'abord à trouver cette joie, c'est-à-dire à vaincre ce qui me détruisait, à ne pas laisser un amour me détruire, et à consentir dans l'amour que je pouvais avoir, effectivement, pour ma sœur, pour mon enfant, à consentir même à leur mort. Et que c'était ce consentement qui était aussi un consentement à la vie, et que c'était dans ce consentement que je pouvais effectivement trouver ce qu'on appelle ce sentiment de joie, qui est le fait de dépasser la souffrance. Il y a une très très belle expression de Paul Claudel qui dit « Le Christ n'est pas venu abolir la souffrance du monde ni l'effacer, il est venu la remplir de sa présence. » Et quand tout d'un coup, on comprend avec sa chair, avec son expérience personnelle, dans des moments de souffrance, ce que veut dire, ce que signifie effectivement cette présence, on est tout d'un coup dans un moment de libération. On redevient libre, on redevient libre de vivre, parce qu'effectivement, on est nourri de ce mystère inversé qui est la mort, qui n'est pas le mal. La mort n'est pas le mal, le mal c'est autre chose.
Quelque chose qui aussi est en filigrane, je dirais, dans ce livre particulier, En pleine lumière, mais aussi dans le reste de vos livres, parce que je crois avoir tout lu, peut-être à une ou deux exceptions de près, de ce que vous avez écrit, c'est l'idée que la situation de l'homme dans ce monde est une situation de souffrance dans le sens où c'est une situation d'exil. Mais c'est aussi une situation de joie, puisqu'il y a l'espérance du royaume dont vous venez de parler. Alors, en quoi, pourquoi ressentez-vous avez-vous cette sensation que nous sommes de toute façon en exil? Et vous dites à un moment donné, je n'ai pas quitté mon pays, mais je suis en exil dans ce monde quand même.
On est toujours en exil, effectivement. D'abord, personnellement, on est en exil de son enfance. On est en exil très souvent de ses aspirations, de ses rêves, de ses espérances. Donc il s'agit de prendre cette notion d'exil et là encore d'essayer de la transformer, de faire que ce qu'on regrette continue à exister, d'apporter un peu plus que ce que nous avons perdu. Ça peut être aussi la définition de toute démarche artistique. Ensuite, nous sommes en exil parce qu'effectivement, on nous prive, le monde actuel, ce qu'on appelle la mondialisation, nous prive de nos références et de ce qui nous a constitués, de notre mémoire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un rapport personnel avec la mémoire, avec la volonté de me souvenir, très très fort. Et j'ai l'impression effectivement qu'on est en train de m'imposer, où le monde nous impose une espèce d'amnésie générale. J'aime voyager, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu le privilège de voyager de façon professionnelle, de rencontrer d'autres personnes. Je suis très triste aujourd'hui quand je pars pour que ce soit Vienne ou que je parte pour n'importe quel autre pays du monde d'ailleurs, même en Chine, que je retrouve les mêmes enseignes, les mêmes restaurants, les mêmes musiques, les mêmes modes vestimentaires. Tout ce qui signait autrefois cet accord particulier d'un pays ou même d'un village avec le lieu qu'il habitait, la façon qu'il avait de dire son amour avec le lieu qu'il habitait, son amour pour ce lieu qui a donné ses maisons particulières à l'Alsace qui ne sont pas celles de la Bretagne, tout ça est en train de disparaître et c'est cette signature, cette singulière de l'individu que je regrette et qui me donne effectivement la sensation d'être systématiquement exilée de ce qui m'a constituée.
Alors, dans cette émission, j'essaierai chaque fois d'apporter un poème que m'inspire la personnalité de mon invité, que m'inspire évidemment que je n'ai pas écrit, mais un poème auquel j'ai pensé en lisant ou en travaillant sur les œuvres de mon invité. Et pour vous, Christiane Rancé, j'espère que vous ne renierez pas ce choix. Et tout ce que vous venez de dire me confirme, en fait, dans ce choix. Je vous ai donc apporté « Mosta et Errabunda, choses tristes et vagabondes » de Baudelaire. Donc, c'est dans « Les fleurs du mal », « Spleen et idéal ». Dis-moi, ton cœur, parfois, s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité? Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Quel démon a doté la mer rauque chanteuse qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, loin, loin. Ici, la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe dise « Loin des remords, des crimes, des douleurs,
Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où dans la volupté pure le cœur se noie. Comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines avec les brocs de vin le soir dans les bosquets, mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs?
Les discussions du soir, Lélie Anvar.
Christiane Rancé, est-ce que ce poème vous convient?
Ah oui,
pour parler de vous.
Tout à fait, absolument. D'abord, effectivement, le paradis de l'enfance et des amours enfantines. Et puis, ce désir de voyage
voilà.
Qu'il faut toujours analyser, que je cherche toujours à comprendre. Et je dis toujours, est-ce qu'il y a une part de désespoir dans mon envie de partir? J'ai toujours eu le désir de partir, et qui est le plus beau verbe de l'aventure. Et je crois qu'il y a effectivement tout ce mouvement de l'âme dans ce poème qui est celui aussi du voyage et celui de la poésie. C'est cette mise en mouvement dans la recherche de quelque chose qu'on ne sait peut-être pas toujours définir et qu'on hante depuis qu'on est enfant. On est tous des fantômes de quelque chose qu'on hante et qu'on cherche à retrouver dans notre vie. Ce peut être l'amour, ce peut être l'enfance, ce peut être un pays perdu. Mais il y a effectivement cette mise en mouvement qui est toujours une mise en mouvement ascendante. Mmh. Et je pense vers Dieu, vers le spirituel, vers l'esprit.
Et vers la lumière, et c'est vrai que Charles Baudelaire n'a pas la réputation d'être un poète particulièrement mystique, mais il me semble que, sinon mystique, il y a une très profonde spiritualité chez lui, et vous en parlez beaucoup dans votre livre. C'est vraiment, Baudelaire et Rimbaud sont les deux poètes, avec d'autres aussi, d'autres moins connus d'ailleurs, Germain Nouveau et d'autres, des poètes qui vous habitent, qui vous inspirent, et qui sont justement cet espace entre spleen et idéal, ce qui permet de traverser tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de faire ce travail de dépassement, je ne sais pas comment l'appeler, du mal, des ténèbres, du chagrin, pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal, mettons.
Oui, toute poésie est spirituelle, voire mystique. Ça, c'est une première chose, parce qu'effectivement, elle recrée un monde. Et pour moi, Baudelaire et Rimbaud sont deux poètes qui ont justement, par la poésie, incarné ce questionnement profond et du monde et d'eux-mêmes. Et dans cette relation entre le monde et eux-mêmes qui fait qu'effectivement, ils ont cherché à traduire ce que la vie avait déposé en eux. Ce mouvement de traverser la vie avait pu laisser comme sédiment, comme alluvion, et qu'ils ont pu retraduire avec ce don extraordinaire, cette grâce magnifique qui leur a été accordée de savoir le dire.
Et de manière générale, la lecture d'auteurs qui vous ont précédé est pour vous aussi une source d'inspiration essentielle. Alors il y a la nature. Tout à l'heure, on parlera bien sûr des évangiles, mais il y a aussi l'art. Alors, il y a les livres,
oui.
Et puis il y a l'art. Quel est votre rapport à la littérature de manière générale, Christiane Rancé?
Nourricier.
Oui, c'est évident.
Nourricier parce que c'est un privilège d'avoir des livres, de pouvoir lire et de se nourrir de ce que les autres vous ont offert. Je disais tout à l'heure que le seul pouvoir qu'on a sur cette terre, c'est effectivement celui de faire le bien ou le mal, et de planter des arbres, d'écrire des livres, de composer de la musique, chacun selon ses aptitudes et selon ses talents. Il y a cette très belle trilogie proposée par Bergson, que chacun peut être amené, évidemment c'est maximaliste, mais c'est comme ça qu'il faut l'entendre, à être un héros, un saint ou un artiste. on peut être artiste d'une façon, on va dire, plus humble en faisant du pain quand on est, en faisant un bon pain quand on est boulanger. On peut être splendidement artiste en étant un peintre, un musicien. Et ce splendidement artiste, ce sont toutes les œuvres qui nous ont été laissées selon cette définition qui est la mienne et que, et qui est toujours de tenter de retrouver plus que ce qui a été perdu. Il est évident qu'on perd des choses, que des choses s'évanouissent, disparaissent, se taisent, que beaucoup d'artistes n'ont pas eu la chance ou le privilège d'avoir été entendus, écoutés ou ressuscités ou exhumés. Mais il faut faire ce travail de recherche, effectivement, pour se nourrir soi-même de tout ce que les autres ont vécu avant nous et de tout ce qu'ils nous ont laissé. Car c'est la seule chose qui importe, c'est de laisser quelque chose qui soit effectivement une empreinte de joie, un témoignage de joie.
Oui, mais je dirais que vous allez encore plus loin que cela, alors que ce soit avec les livres ou encore ou avec les autres formes d'art que vous venez de citer, en particulier la musique qui pour vous est très importante. Vous avez prononcé le mot nourricier et j'ai vraiment le sentiment, et là-dessus je suis vraiment très, très en harmonie, je dirais, avec votre démarche, que au fond, dans toutes les formes d'art, dans toutes les expressions de... voilà, artistique ou poétique, produite par les humains, vous cherchez ce que vous cherchez aussi dans la nature, c'est-à-dire cette chose qui est en relation avec le mystère intime de la foi. Bizarrement, même quand vous regardez une œuvre d'art pas nécessairement sacrée, ou quand vous lisez un livre pas nécessairement à l'évidence spirituelle, ce que vous y recherchez, c'est une nourriture de cette foi profonde qui vous habite. Est-ce que je me trompe ou parce que je vous lis comme j'ai envie de vous lire ou c'est comme ça que vous le ressentez aussi ?
Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas ce que je recherche, c'est ce que je retrouve.
Voilà.
Et c'est très fort parce qu'effectivement, c'est tout d'un coup la lumière qui est là. Et c'est une lumière qui est inépuisable, mais qui n'éblouit pas. C'est une lumière qui dessine un chemin. Donc, je suis absolument persuadée, effectivement, que cette capacité à créer est une capacité qui vient de l'image de Dieu que nous sommes, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, et que c'est un acte de foi envers sa propre âme que de se consacrer et quelquefois de consacrer sa vie à écrire, à peindre, à composer de la musique. Quand on connaît les vies de chiens qui ont été celles de certains compositeurs, celles de certains peintres qui n'ont rien concédé au confort, qui n'ont rien, qui n'ont sombré dans aucune compromission, simplement pour dire ce qu'ils ressentaient, cet aspect, et pour exprimer et pour incarner cette capacité à créer, je pense effectivement qu'on retrouve là ce lien extraordinaire qui est effectivement l'étymologie du mot religion, dont il ne faut pas avoir peur. C'est un très joli mot, parce que le mot religion, c'est ce qui nous lie à Dieu. Et l'art est une, effectivement, en cela, une religion, parce que c'est un lien ombilical avec cette puissance divine qui est une puissance de liberté extrême, de se choisir déjà, de se choisir dans l'expression qui va être celle de notre propre vie. Ce déploiement qu'on peut rencontrer et connaître par-delà, effectivement, toutes les épreuves qui nous sont données. Et certains en sont beaucoup plus accablés que d'autres, c'est évident, mais c'est effectivement cette éducation de l'âme que nous pouvons trouver dans toutes les œuvres d'art et dans l'art. Et je dirais dans l'art religieux aussi, qui a quand même été celui qui a construit tout l'art jusqu'au XVIIe siècle, tout l'art occidental.
Oui, et on revient à la beauté. Et en effet, alors pour le coup, cet art était l'expression d'une foi, mais il avait aussi une fonction qui était d'éveiller l'âme, d'élever l'âme par la contemplation de la beauté. Il y a vraiment une recherche de l'éveil par la contemplation dans la démarche de l'art sacré. Et ça, vous le vivez de manière très intense quand vous visitez des églises ou des lieux où l'art sacré se déploie. Christiane Ancet.
Oui, parce qu'effectivement, la contemplation, ça n'est pas encore non plus une chose qui nous est enseignée aujourd'hui. Mmh. Ça n'est pas un élément d'éducation qui est très, très présent. C'est encore une chose que m'a révélée Simone Veil quand elle parle de cette attention extrême qu'elle a et de ce moment de sa vie où elle va décider de toute sa vie à la contemplation de la cime d'une montagne. Ce qui peut paraître tout à fait, sans doute, anodin, mais qui est très profond. Et je crois qu'effectivement, il faut avoir la capacité de contempler, c'est-à-dire non seulement de regarder, mais en même temps d'écouter et de traverser les apparences, c'est-à-dire de chercher à voir autre chose que ce qui nous est donné à voir, de chercher à voir ce qu'il y a non seulement derrière, mais ce qu'il y a au-dessus, ce qui a précédé, ce qui a présidé à cette création, à cette œuvre. Et à partir de là, on entre effectivement non seulement en contact avec celui qui a peint, avec ce qu'il a déterminé à peindre, mais aussi avec cette part d'âme qu'il a consacrée, qui a été la sienne et qu'il a consacrée pour nous laisser ça, cette espèce de merveilleux cadeau, ce legs, cet héritage splendide de l'humanité qui nous est donné de contempler aujourd'hui pour la faire fructifier. Voilà, ça c'est pour moi quelque chose effectivement de très important, c'est cette notion d'héritage, de cet héritage extrêmement joyeux et dans une très grande légèreté en plus, que je me sens le devoir de pouvoir transmettre aussi à mes enfants.
Alors, vous parlez de transmission et c'est une perche que vous me tendez pour la question que je voulais poser à ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'on peut éduquer à la beauté et est-ce que l'école, le système éducatif, fait suffisamment ce travail? Je vous avoue que moi, j'ai le sentiment que non. Mais qu'en pensez-vous, vous-même, Christiane Rancé?
Il y a une très très belle définition de Kierkegaard qui dit que toute véritable éducation tente à purger de l'éphémère. Mmh. Voilà. Et je crains effectivement que l'école plonge les enfants non seulement dans l'instant, mais dans ce que l'instant a de plus éphémère. Je crois que l'éducation, effectivement, consiste à ramener à l'essentiel et à offrir aux enfants cette espèce de bloc profond de connaissances, mais de connaissances qui vont les élever. Voilà. Il y a le mot éduquer, on parlait, il y a éduquer, élever et enseigner. On dit des mères qu'elles élèvent leurs enfants, il faudrait dire de l'éducation, qu'elle soit nationale ou pas, qu'elle élève les enfants aussi. Et ça, cette notion d'élévation a totalement disparu, je crois, parce que on coupe, là encore, les enfants de la mémoire qui les constitue. Car nous sommes constitués de cette mémoire, nous ne pouvons pas raisonner aujourd'hui comme nous raisonnons si nous faisons abstraction des 3000 ans qui nous ont précédés. Alors il ne s'agit pas d'enseigner 3000 ans d'instant, il s'agit simplement de laisser cette écume merveilleuse qui a été déposée sur nos plages pour en nourrir nos enfants.
Oui, surtout que, et on en revient au début de notre conversation, il me semble qu'il y a un lien indéfectible entre la beauté et l'amour, et que si on ne peut pas enseigner l'amour, on peut au moins pointer vers cela, par précisément une éducation à ce qu'il y a de beau, de bien, d'inspirant autour de nous. Et ça, pour vous, c'est évidemment très important. C'est-à-dire, finalement, tout cela, ça pointe vers l'amour, que vous enseigne plus particulièrement la personne de Jésus-Christ.
L'amour ne s'enseigne pas. Sauf voilà. Jésus, l'amour s'incarne.
Et d'ailleurs, même lui, il ne l'enseigne pas, il l'incarne.
Il l'incarne. Et ça, c'est aussi une très très belle... L'incarnation, c'est le plus splendide mystère qui nous soit donné de connaître. Et qui nous soit donné de réfléchir et de comprendre. C'est qu'est-ce qui fait tout d'un coup que Dieu s'est mis dans cette proximité avec nous-mêmes pour incarner sa sainteté, pour incarner, pour donner la définition de ce qu'il est, qui est effectivement l'amour et la liberté, et cette extrême liberté de la création. Et l'amour ne s'enseigne pas, effectivement, il s'incarne et c'est ce que nous sommes appelés à faire, incarner quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous porte et qui est effectivement l'amour qui ne peut pas exister sans un acte d'amour. Ça, c'est la très belle révélation de Thérèse d'Avila qui voulait sauver son âme, qui passait des heures à prier toute seule jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que certes, elle allait sauver son âme, mais que son âme ne serait pas sauvée puisqu'elle n'avait jamais aimé quelqu'un d'autre que sa propre âme. Mmh. Et qu'il ne pouvait pas y avoir d'amour sans un acte d'amour. Et là, elle s'est effectivement dédiée aux autres. Et c'est en se dédiant aux autres, en essayant d'incarner effectivement une joie, d'incarner une parole, et d'incarner cette parole christique qui est « aimez-vous les uns les autres ». Je ne vais pas bien le dire, mais c'est le premier et le plus important de tous les commandements. Mmh. Effectivement, c'est la seule façon, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, la seule solution à ce que 7,5 milliards d'individus puissent vivre en harmonie et heureux les uns avec les autres sur cette terre aujourd'hui.
Et vous avez l'espérance que c'est possible ?
Bien sûr, mais je crois que c'est une espérance qui tient à chacun, qui tient dans le cœur de chacun. Je pense que la grande difficulté, c'est d'attendre que quelqu'un vienne, une espèce de deus ex machina, vienne effectivement apporter une solution, qu'elle soit politique, économique...
Ou religieuse, d'ailleurs.
Ou religieuse. Oui. Non, la solution vient de chacun de soi, dans effectivement cette capacité à incarner une parole et à incarner un exemple. Moi, je ne suis pas une sainte, je le regrette. Je ne suis pas héroïque non plus, je le regrette ô combien. J'aimerais être un petit peu une artiste. J'essaye de l'être en écrivant. Je suis un écrivain. J'ai toujours eu ce désir depuis que je suis enfant. Mais je pense que ce que j'aimerais, c'est que ce que j'écris fasse du bien aux autres. Ce que je témoigne de ma propre vie, de ma propre expérience, puisse apporter une réponse à quelqu'un qui va traverser la même chose que ce que j'ai pu traverser, que ce soit des moments très heureux, que ce soit des moments de contemplation, que ce soit effectivement des moments très durs, de deuil, mais que ce soit cette capacité que nous offre et Dieu, et les évangiles, et le Christ, et l'art, qui est une forme, effectivement, une manifestation divine,
d'incarnation,
de dessiller les paupières, et de sortir de cette espèce de consentement à la mort, de connivence que nous avons aujourd'hui, que notre société a aujourd'hui avec la mort. La mort n'existe pas tant que nous célébrons la vie.
Merci beaucoup, Christiane Rancé, d'être venue partager tout cela avec nous. Vous avez, livre après livre, en réalité... accompli ce que vous avez voulu transmettre et j'espère que vous allez continuer longtemps à nous inspirer. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru chez Albin Michel, En pleine lumière. Je signale aussi à nos auditeurs que va paraître en octobre un recueil d'entretiens choisi parmi les meilleurs moments des Racines du ciel, émission que nous avons co-animée pendant 7 ans avec Frédéric Lenoir sur cette antenne. Et ce livre va paraître sous le titre Oser l'émerveillement. Et dans cet ouvrage, on trouve un entretien avec vous, Christiane Rancé, à propos de l'enchantement de la prière. C'est une coédition France Culture Albin Michel. La semaine prochaine, je m'entretiendrai avec Guillaume de Fonclar, lauréat du prix Écriture et Spiritualité, prix qui lui a été remis en juin 2016 sous votre présidence, Christiane Rancé, pour son livre Joé, paru aux éditions Stock. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Thierry Beauchamp et prise de son Claude Niort. Vous pouvez podcaster pendant 1 an ou réécouter cette émission quand vous voulez sur le site de France Culture.